parfaitement à l'est sur RCN.
On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette émission avec notre invitée de la semaine, donc Nathalie Mougel. Bienvenue Nathalie, comment tu vas ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et je vais très très bien, merci.
Alors aujourd'hui on va parler de journée de la reconversion. Alors Nathalie, à ce que j'ai compris, anciennement tu étais cadre dans le médico-social, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Alors est-ce que tu peux nous en parler beaucoup plus et nous dire comment c'était pour toi et on reparlera après de ton nouveau métier maintenant ?
Alors avec plaisir, donc mon job était assez simple et à la fois compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait changer un peu l'image du médico-social et du social. Ce ne sont pas que des cassos, comme on peut l'entendre, mais on a un panel de personnes avec énormément de compétences au sein de nos structures. Enfin, je dis non, mais je n'y suis plus. Mais j'ai encore mon cœur qui est là-bas. Donc, on a accompagné 14 000 personnes sur le département des Vosges. Donc, de l'enfant qui est placé en foyer, personne en EHPAD, demandeur d'asile, champ du voyage, polyaddict, et les jeunes qui sont en réinsertion sociale aussi, et des personnes polyhandicapées. Et donc moi, mon rôle, c'était de décloisonner en fait la société dite normale civile et le monde du médico-social par des projets innovants autour du sport, de l'art et de la culture.
D'accord.
Donc on a fait la première partie de Grand Corps Malade avec des personnes polyhandicapées.
D'accord.
J'ai mis en place la course colorée, le footing multicolore solidaire de la FMS sur Épinal, où à la fin on avait 2000 participants.
Oui.
Donc toujours en gardant ce côté humain, en disant que le sport était universel, mais bon, quand on me voit physiquement, on se doute que je ne suis pas sportive, donc il me fallait un truc un peu plus fun.
Ouais.
Donc j'ai rajouté de la poudre colorée et des concerts et de la musique et des jeux, parce que c'est les seuls moyens où on n'avait pas besoin de parler la même langue ou d'avoir la même couleur de peau ou de venir du même univers social. Tout le monde était sur la même ligne de départ et même ligne d'arrivée. Et je crois que c'était le plus beau moment et vraiment la véritable signification de mon travail.
D'accord. Et par rapport à ton travail, du coup, comment ça se passait ? Est-ce que tu aimais quand même bien ton métier ou comment ça se passait pour toi anciennement ?
Alors, je l'adorais, je l'adore. Car on est à l'abri de rien.
Oui.
On sait qu'un jour, on peut devoir bénéficier d'une des structures du médico-social. Voilà, il ne faut pas se sentir à l'abri d'être SDF un jour, d'avoir un accident, d'avoir un enfant malade. Et ce côté me manque énormément, mais que j'ai récupéré parce que je suis bénévole au Blues Rose. Donc j'interviens aux urgences pédiatriques pour divertir les enfants qui sont hospitalisés.
D'accord. Et là, par rapport à ton ancien métier, toi, du coup, tu t'occupais de quoi plus précisément ?
De rencontrer les salariés des structures et des résidents et de voir ce dont ils avaient besoin et d'écouter ce qu'ils avaient à dire. C'est-à-dire que quand tu rencontres des jeunes qui sortent de la rue et qui disent « le musée, j'y vais pas, j'y ai pas le droit
».
Pourquoi tu n'y as pas le droit ? Parce que je sors de la rue. Non, en fait, le musée est ouvert à tous. Donc j'ai changé un peu cette image, c'est-à-dire qu'on a écrit un album de chansons avec des enfants qui sont placés en foyer.
Oui.
Et j'ai appelé le musée en disant « je veux venir écrire dans votre établissement
».
Et on a fait le tour du musée, on leur a expliqué comment ça fonctionnait. Et on s'est posé là où ils étaient le mieux dans le musée, au milieu d'une exposition. On s'est assis, on a sorti la guitare et on a sorti le papier, mais on a sorti aussi tout ce qu'on avait sur les tripes.
D'accord, ok. Donc, tu avais plutôt ce côté un peu humain, donc qu'on ne retrouve pas forcément, parce que je sais que dans les EHPAD, on a ce côté un peu mauvais sur les personnes qui travaillent dedans. Donc, tu participais à rendre ça un peu meilleur, on va dire.
Alors, moi, c'est le côté fun. J'étais dans le côté prendre soin. Mais je vais dire mes collègues, parce que ça restera mes collègues. Elles font un boulot de dingue, sauf qu'on ne le voit pas, ne le perçoit pas. Mais elles ont des moyens limités. Et bien sûr que des fois, elles doivent aller vite sur des prestations, comme le matin et tout ça. Mais malheureusement, elles n'ont pas forcément le choix. Il n'y a pas beaucoup de moyens en EHPAD et elles ne le font pas consciemment. Mm-hmm. Elles en sont même malades, il faut le savoir, hein, que des aides-soignantes ou autres métiers d'EHPAD en sont malades parce qu'elles ne peuvent pas donner le soin et le prendre soin dont elles aimeraient partager avec les résidents.
D'accord. Bah, dans tous les cas, moi, je sais que moi, ma mère, elle travaille en EHPAD, justement. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là où les gens, ils travaillent quand même beaucoup et ils ont beaucoup à donner. Et il faut aussi savoir se détacher des patients aussi, parce que sinon, ça impacte beaucoup. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, donc ce côté-là, justement, d'être attaché à des patients ou...
Bien sûr.
Comment t'arrives à te détacher de tout ça ?
Bien sûr, on ne fait pas ces métiers par hasard. Hein. C'est une vocation, autrement, on ne pourrait pas le faire. Et surtout... comme dans la radio, si on n'a pas le côté humain, si on n'a pas le côté empathie et échange, ça ne marcherait pas.
C'est vrai.
Et moi, c'était peut-être ma principale qualité dans mon métier, mais aussi ma faiblesse, parce que quand on nous parle de viol et qu'on nous demande est-ce que c'est normal que mon papa me fasse ça ou des choses comme ça, non, mais je... Je ne pouvais pas faire poker face et
oui.
dire « Non, ça ne m'atteint pas, je suis cadre. » Non, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'étais reconnue dans mon métier par mes partenaires, parce qu'ils savaient que derrière tous mes projets, il y avait une âme, et que si je le faisais, c'est qu'il y avait une raison et que ça répondait à un besoin des personnes qu'on accompagnait. Et pas pour dire « On fait comme tout le monde » ou « Ouais, super, on a fait la première partie de Grand Corps Malade.
Ouais. »
Grand Corps Malade, je lui ai parlé comme je parlais à toi ou à quelqu'un d'autre. Moi, il y a pas de... On était là pour le même objectif. C'était rendre heureux des personnes et montrer ce qu'on savait faire. Il y a pas de... Mais il faut un minimum d'humain, d'humanisme, d'humanité et d'empathie. Sauf que moi, j'ai pas le minimum, j'ai le maximum.
c'est toujours mieux comme ça. Au moins, tu peux donc faire plaisir à tout le monde. Hein, oui. C'est très important. Du coup... Donc là, par rapport à Grand Corps Malade, c'était quoi l'événement que vous avez fait
C'était le festival en haut, sur la colline. Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Ça consistait en quoi, particulièrement ?
Eh bien, c'est plein de chanteurs qui viennent, d'artistes qui viennent chanter sur un week-end.
Okay.
Là, cette année, je crois que c'était Black M qui devait venir, mais malheureusement, il a eu un empêchement. Mm-hmm. Mais c'est un super beau festival où on peut... rencontrer, découvrir de nouveaux artistes et puis profiter d'un concert d'artistes plus connus.
D'accord. Donc justement, ça participait à ce côté humain où donc les gens pouvaient venir pour participer un peu à la cause, on va dire.
Oui, voilà. Et puis donc nous, c'était montrer que c'est pas parce qu'on est polyhandicapé qu'on n'est pas capable de faire quelque chose.
C'est
donc on avait volontairement pris une chanson de Grand Corps Malade pour montrer cette chanson. Et ce travail qui était effectué, hein, parce qu'il faut savoir que mes collègues qui leur apprenaient la chorégraphie, c'était des fois un peu compliqué parce qu'on sortait de la salle, tout était oublié et on recommençait. Mais le résultat était juste magnifique. On a eu de la chance ce jour-là, c'est que dans le public, il y avait un photographe, un vrai photographe, qui nous a fait les photos, on ne le savait pas, et qui les a envoyées le soir même. Et on voit l'émotion et la vraie signification des textes de Grand Corps Malade. Donc moi, ça me va. C'était mon job, il est là.
D'accord. Donc toi, maintenant, tu ne regrettes pas forcément d'avoir quitté ce métier-là parce que tu sais que tu as quand même accompli ce que tu devais faire ?
Je ne regrette pas parce que je n'ai jamais de regrets dans la vie.
Ok.
Et il ne faut pas. mais bien sûr que ce monde me manque et c'est pour ça que tout de suite, j'ai accepté d'être blouse rose. C'est une vraie famille de bénévoles qui œuvrent auprès des personnes en EHPAD, auprès des enfants qui sont hospitalisés aux urgences. Donc j'ai encore ce lien avec l'humain et l'accompagnement et dire que ce que je fais a une valeur. Donc c'est pour ça que je le vis bien, et surtout parce que je m'éclate dans mon nouveau job, et c'est mon bébé à moi.
D'accord. Bah justement, on va parler de ton nouveau job juste après, donc une petite musique qui s'intitule Clean plus Terminal 2 de This Is.
By night, c'est le haut niveau. OG Love, Neo Romeo. Sur la promenade, ex-Paigo. Ex-Kaira, regarde pas trop ma go. Avec elle le soir, c'est le rodéo, yes. Je le fais qu'avec elle, ou là c'est ma promesse. J'avais le cœur en compote, j'ai le cœur en conquête. Ses yeux sont des glocks, sa beauté est concrète. Elle est trop fraîche, elle est trop stylée. Sur le bord de mer, elle est trop stylée. Sous le lampadaire. Nos pistolets rond, gang sur mer, loin de pas les eaux. OG Love, Néo Romeo. Les soirs avec elle, c'est le rodeo. Elle est trop stylée sur le bord de mer. Elle est trop stylée sous le lampadaire. Sur nos épaules, nous entourent de lumière. Je t'embrasse comme dans ce tableau de Klimt sur le bord de mer.
À l'Est sur RCN. Elfénoul.
Aujourd'hui, on parle de journée de la reconversion avec Nathalie Mougel. Alors Nathalie, donc, je ne disais qu'anciennement, tu étais cadre dans le médico-social et puis maintenant, tu as pu faire ta reconversion. Est-ce que tu peux nous parler donc, de ton nouveau métier? Que fais-tu aujourd'hui?
Alors, virage à 360 degrés parce que... Après avoir choisi de changer de vie, c'est la crise de la quarantaine, hein, ça fait un peu le mal des fois. J'ai repris mes études pour passer un diplôme de chef de chantier au CESI à Vendeuvre, donc pas très loin, parce que j'ai profité du confinement pour voir les métiers qui existaient et j'ai vu que les artisans et les petites entreprises, finalement, des fois, fermaient leur entreprise, pas par manque de compétences, loin de là, parce que souvent, ils ont de l'or dans les doigts, mais parce qu'ils ne sont pas assez dans les bureaux pour répondre à l'administration, à faire des suivis de factures, de devis, de relances. La sécurité, tout ça n'était pas fait parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas être partout non plus. Hein. Quand on ouvre notre entreprise, on y va parce qu'on sait qu'on a une compétence quelque part, mais on ne sait pas tout ce qui nous attend derrière. Du coup, mon entreprise, c'est ça. J'accompagne les TPE, PME, artisans, à suivre leur entreprise, mais de façon externalisée, c'est-à-dire qu'ils m'appellent quand ils ont besoin. On ne crée pas une demande, on répond à un besoin. Et donc, ça peut être sur tous ces aspects-là, administratif, sécurité, répondre à des marchés publics, faire des suivis de chantier, du coup, comme j'ai eu mon diplôme haut la main.
Ouais, bravo.
Merci. Mais c'est la qualité de l'enseignement qui fait tout. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est vraiment d'être à leur côté.
Ok. Donc, on retrouve quand même ce côté humain où t'aimes beaucoup être, aider les gens. Donc, c'est super cool. Mais donc comment ça s'est passé pour toi pour que tu dises que maintenant, je vais travailler dans le BTP?
Alors, ça a été une décision très compliquée, surtout quand on aime notre travail. J'allais juste au travail un peu à reculons parce que le contexte où je le faisais, l'environnement, ne répondait plus à mes valeurs.
Hein.
Mais ça, c'est perso, c'est comme ça. Je me suis vraiment penchée sur ça, qu'est-ce qui existait. Donc je faisais des entretiens pro salariés de l'entreprise où je travaillais. Donc du coup je connaissais tout ce qui existait autour. Donc j'ai appliqué ce que je demandais d'appliquer aux salariés. Je suis allée rencontrer une conseillère en évolution professionnelle, sans la citer, Sabrina Meyer, qui a changé ma vie. Parce qu'elle a été à l'écoute et elle a été à mes côtés tout le long de mon souhait de changement de vie. Et vraiment, elle m'a accompagnée jusqu'au bout. Et donc, il faut savoir que c'est gratuit. Donc, tous les salariés peuvent aller prendre rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle. N'hésitez pas à y aller, je vous le conseille. Et on a travaillé sur mon projet de vouloir être dans le BTP, parce qu'il y avait une réelle demande. Mon surnom, c'est Princesse BTP, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis toujours en paillettes et en tutu, et en robe, et
c'est
en escarpins.
C'est vrai, je suis aujourd'hui en paillettes, tout en paillettes.
Voilà, donc il fallait que je sois légitime sur un chantier et auprès d'un artisan en disant je viens vous proposer mes services, mais je sais de quoi vous avez besoin.
Okay.
Et c'est pour ça que j'ai repris ces études. En soi, c'était pas obligatoire, mais je voulais être utile et surtout leur enlever une charge mentale.
Mmh.
En disant, je vous donne un dossier et elle sait le gérer. Le marché public, je sais le gérer toute seule. La sécurité sur un chantier, je sais le gérer toute seule. Donc voilà, c'était important, ce diplôme. Okay. Il n'était pas utile, mais pour moi, il était légitime.
D'accord.
Et donc, il fallait que je reprenne mes études, mais au moment-là, j'étais maman solo, et je le suis toujours. Et donc, il fallait que je trouve comment financer tout ça et comment financer un changement de vie. Et là, on m'a aiguillée vers Transition Pro Grand Est, que je remercie parce qu'ils ont changé ma vie. Et cette vie, je leur dois en partie, et ils le savent, parce que voilà, ils m'avaient invité sur un webinaire, c'est terminé en pleurs, parce que je les remerciais, ils me remerciaient, enfin voilà, c'était quelque chose de très humain,
oui.
Et ils ont changé réellement ma vie en finançant ma formation à hauteur de 54 000 euros.
D'accord.
Donc ça, il faut le savoir. C'est vraiment un partenaire que vous devez avoir dans vos tablettes et dans les contacts, dans votre téléphone portable, parce que Transition Pro Grand Est, quand ils peuvent, ils le font, quand ça répond aux critères, bien entendu.
Ouais.
Là, j'ai répondu, bien sûr, reconversion pro, je pense que j'étais pas mal.
Ouais.
Du médico-social au BTP, c'était pas mal.
Ouais.
Et donc, 54 000 euros, ça couvrait les frais pédagogiques. Et pour information, ma formation a été conçue pour moi, c'est-à-dire que j'ai passé le diplôme de chef de chantier, mais également des certifications de manager de proximité.
Ouais.
Et tout a été adapté pour moi, c'est-à-dire qu'ils connaissaient mon projet pro, et donc ils ont réalisé des cours pour moi pour que ça réponde à toutes mes demandes. Donc c'est quelque chose vraiment de personnalisé qui est faisable au Saisi et avec Transition Pro Grand Est. D'accord. Et donc ils ont financé aussi les frais annexes, hein, mm-hmm. parce que je viens d'Épinal, donc tous les jours à Nancy pour mes études, lors de mon stage aussi. Mm-hmm. Et puis pour que je sois absente de mon travail, ils finançaient mon salaire à mon employeur et mon employeur maintenait mon salaire. Donc je n'ai pas déboursé, enfin bien sûr mon repas ou des choses comme ça couvrait pas tout. Mais quand on veut changer de vie, il faut aussi savoir sacrifier des choses.
C'est ça. Alors bah, par rapport à ce changement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le parcours sur une personne là aujourd'hui qui t'entend et qui se dit mais c'est incroyable en fait, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier et comment, enfin toi ton parcours, comment ça s'est passé?
Alors, je lui conseillerais de se poser et de savoir si quand elle va au travail, elle le fait avec amour et qu'elle elle y va vraiment avec bon cœur. Là, c'est la première étape. Si les questions qu'elle se pose, comme je viens de les poser, c'est non, 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 il y a un moment, faut que, je dis tout le temps, il faut se sauver soi-même et sauver de l'endroit où on n'est pas, on va dire, en accord avec ses valeurs. et puis, aller voir donc son conseiller en évolution pro, qui sera derrière un acteur très important pour changer de vie.
D'accord. Et toi, quel a été ton déclic justement pour entamer ce parcours vers ton changement de vie, du coup?
Ouais. Alors, un environnement qui ne me convenait pas. Et surtout, c'est... Ça va être spécifique, c'est-à-dire le décès de mon père. J'ai pas voulu le... Enfin, il est décédé du Covid, de la première vague. Donc, avec tout ce qu'on a entendu, hein, c'est-à-dire on ne peut pas aller lui dire au revoir, on ne peut pas le voir. On va reconnaître un corps. On est seul à un enterrement. Enfin, un enterrement, une mise en terre. Parlons clair. Et là, je me suis dit... c'est un événement triste. Hein. Mais je dois pas l'utiliser comme un événement triste, mais comme un tremplin. Pour me dire, est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que je suis bien là où je suis? Non, alors bouge-toi.
Okay.
Donc c'est vraiment, il faut se dire que les choses n'arrivent pas parce qu'on attend les choses, mais parce qu'on va les chercher, parce qu'on va au plus profond de ce qu'on a envie de faire. Et sachant qu'on peut être aidé comme avec Transition Pro Grand Est, parce que sans eux, j'aurais pas pu le faire. On est d'accord que 54 000 euros, même 20 000 euros de formation, j'aurais pas pu le faire. Quoi.
Mais ça sort pas de n'importe où. Hein.
Voilà. Donc il faut savoir. Mais après, c'est une démarche personnelle. Mm-hmm. Il faut pas attendre qu'on vous dise ah, vous pouvez faire ça, vous pouvez ça. Non, c'est vraiment une décision. Je ne voulais plus être spectatrice de ma vie, mais actrice de ma vie. Ok, une situation ne me convient pas. Mm-hmm. À moi de la changer. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc moi, ce que je conseille, c'est de s'écouter. Okay. Et d'aller au bout de ses rêves, même si ça peut paraître compliqué, même si ça peut paraître déroutant, parce que pendant un an, reprendre à 40 ans ses études avec des jeunes de 17-18 ans, je rentrais, on me disait « Vous êtes la formatrice ?»« Non, je suis étudiante, donc je vais aller à toutes les soirées étudiantes avec vous. » Là, je m'impose. et puis voilà, et puis je pense que mon fils s'est bien vengé sur cette étape-là où il pouvait me faire réciter et puis me faire réviser et me dire « Tu recommences, t'as pas bien appris ta leçon. » Donc c'est vraiment, c'est un bouleversement dans sa vie, mais pour moi, ça a été un bouleversement positif.
D'accord. Bah, c'est super fort. Ça me fait beaucoup plaisir ce témoignage parce que c'est pas tout le monde, surtout là, comme tu viens de le dire, après un décès, c'est un peu compliqué de se dire qu'on va se reprendre en main, faire le deuil et tout, c'est un peu compliqué. Mais du coup, c'est tout honorable pour toi. Alors, du coup, là, par rapport à ton nouveau métier, moi, j'aimerais savoir, par rapport à ton parcours, du coup, tu nous as expliqué. Ton nouveau métier, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quel est ton rôle de patron maintenant? Comment ça se passe pour toi?
Alors, il faut savoir que les patrons, comme on dit, on fait tout. On voit souvent le rôle du patron, l'image du patron, il gagne plein d'argent et tout. Non, mais par contre, on fait tous les métiers du monde en une personne.
Okay.
On est comptable, on est administratif, on est commercial. on va faire notre job. Donc, oui, nos journées sont longues, pas assez longues et trop longues parfois, parce qu'on a envie d'aller se coucher. mais je crois que le principal, c'est de se lever, de se dire, ouais, super, aujourd'hui, bah, je passe à la radio. Là, cet après-midi, j'ai organisé un after-work. Voilà, ça fait le 9 décembre, ça va faire un an que j'ai ouvert ma boîte. J'ai ouvert ma boîte le 9 décembre, pourquoi ? Parce que je suis persuadée que la magie de Noël opère. Et j'y crois encore, malgré mon âge et malgré ce qu'on peut entendre, voilà, la vie qui n'est pas toujours simple. Et j'ai eu raison d'y croire parce que j'ai fait ma place tout doucement, que ce soit sur les réseaux d'entreprise. Et on m'a fait confiance très rapidement en me demandant d'aller chez Dinabaï pour animer les rencontres dirigeants. Et je rencontre plein de personnes. Et puis, bah, ces réseaux, ils me servent aussi pour mes clients. Okay. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps, eux, d'aller sur du réseautage. Et moi, en fait, mes oreilles, elles traînent. Et puis, hop, je place leur métier en disant « Ah, vous cherchez un chauffagiste ? Moi, j'en ai un. » Voilà, et je peux gérer. Et puis, souvent, je vais en entreprise pour gérer avec eux leurs problématiques qu'ils n'ont pas le temps de faire ou qu'ils ne connaissent pas. Et je les mets en lien avec les bonnes personnes. Je peux le matin être avec un avocat sur un dossier très compliqué avec un artisan. Après, je passe à la radio. Après, je vais sur des organisations d'afterwork. Et après, je vais sur un marché public. Ça, c'est journée type où mon cerveau, en fait, il ne sait plus où il est des fois. mais je me suis créé un univers de travail chez moi qui est cocon, qui me permet d'être apaisée et de savoir ce que je fais. Et j'adore.
D'accord. Et là, dans ton entreprise, tu travailles seule ou tu as des employés ? C'est quel type d'entreprise que tu as ?
Une auto-entreprise, donc je suis toute seule. Toute seule dans l'entreprise, mais j'ai un réseau tellement développé que je ne me sens jamais seule, en fait. J'ai toujours... on n'est pas seule parce que quand on a une problématique ou quand on a un coup de blues ou quand on est un réseau.
D'accord.
Et réseau, ce n'est pas que le mot réseau, on va aller boire un coup, on va ça... Quand on a besoin, on met un mot sur LinkedIn, on met un mot sur notre groupe et on dit « je sais pas ça, je sais pas ça » ou « tu connais quelqu'un qui travaille à CCI, tu travailles ça ». Donc c'est un réseau, c'est une famille d'entrepreneurs et on casse l'isolement et c'est pour ça que je m'investis énormément dans les réseaux d'entreprises comme Dinabaï, CPME, Réseau Entreprendre, Cobati, tous ces réseaux où je suis actrice, c'est volontaire.
D'accord.
Parce qu'on a des compétences partout, on ne peut pas tout gérer et tout savoir. Et moi, j'aime bien aller m'enrichir des autres.
D'accord. Bah, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, il y a cette problématique où les gens, ils ont peur de dire que je ne connais pas, je ne sais pas faire ça. Et là, en fait, je décomplexe totalement le truc en disant, je ne sais pas faire ça, je mets un message sur LinkedIn et évidemment, il y a des gens qui vont venir aider.
Bien
donc, c'est très important au final de pouvoir faire ça. Et par rapport... donc là, tu disais tout à l'heure que tu étais... beaucoup dans la com et plutôt physique. Comment t'expliques ça ? Enfin, explique-nous, toi, comment tu réalises ta com ?
Alors, en étant présente sur des événements, des petits-déj, dans les réseaux d'entreprise, voilà, au bout de 3-4 mois, on m'a demandé de gérer Dinabaï à Épinal, les rencontres dirigeants, parce qu'ils savent que, pour moi, le partage est énorme. Et doit se faire en toute bienveillance. Et je pense qu'on a besoin de sortir de nos sentiers battus, de notre zone de confort. Parce que quand je vais devant et que je présente Dinabaï et que je présente les rencontres dirigeants et que j'ai une trentaine de dirigeants devant moi, même si je peux paraître hyper confiante, il y a toujours un stress à dire est-ce que je ne vais pas bégayer ? Est-ce que je ne vais pas raconter des bêtises ? Voilà. mais je pense que c'est hyper important. Cet aspect de contact. On s'est trop caché derrière nos écrans pendant longtemps. Et je pense qu'on a besoin de voir physiquement les gens, de pouvoir serrer encore une main, même si avec la Covid, ça a été compliqué. Mais c'est important. Important de partager un verre, important de partager un café, d'échanger sur nos vies perso, nos vies pro. On a besoin de ce lien. Je pense que notre société nous a un petit peu éloignés de tout ça. Mais oui, on est dans une société de paraître où la com sur les réseaux est importante. Ouais, hein, oui. Je ne peux pas dire le contraire, je pense que je suis une bonne actrice. mais je prône vraiment le côté physique. Voilà, pour l'interview, on aurait pu la faire à distance.
C'est ça.
J'ai préféré me déplacer parce que c'est beaucoup plus sympa et j'ai découvert des lieux super sympas avec un patron sympa aussi.
Et des projets super sympas qui arrivent
d'ailleurs. Qui arrivent, oui, parce que, bah oui.
On ne va pas dire maintenant, mais ça arrive très bientôt. Bah, en tout cas, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Mais je suis très content que tu sois là, Nathalie. C'était une très belle interview pour moi. Tu es une personne très humaine que j'apprends à découvrir et que j'aime beaucoup déjà, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire un dernier mot, nous donner tes réseaux sociaux, ton entreprise, lui faire une petite com, en fait, tout simplement?
Alors, le nom de mon entreprise, c'est la Maison des Prestas. Mm-hmm. Donc, vous inquiétez pas, sur le logo, il y a un escarpin rouge, c'est normal, c'est tout moi. Vous pouvez cliquer dessus. LinkedIn, Facebook, c'est Nathalie Mougel. Mm-hmm. Le mot que j'aimerais juste dire, croyez à vos rêves et croyez en vous, en fait. Et allez jusqu'au bout, même si ce n'est pas simple, il y a une issue toujours favorable et on ne fait jamais les choses par hasard.
D'accord. Bah, merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de te recevoir et
bah,
peut-être une prochaine fois.
Avec plaisir.
Bonne journée à vous, à vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.